Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Curieux, souriant, cultivé. Vincent Desureaux, le gendre qu'on voudrait tous avoir.
Il a une belle tête de vainqueur.
Vous écoutez Vincent Desureaux.
Vous savez probablement, je suis assez fasciné par l'appareil politique américain, entre autres ses symboles, la Maison Blanche, le Capitole, Air Force One, Marine One et compagnie. Et parmi ces symboles-là, il y en a un qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est Camp David, donc la résidence des présidents américains en vacances. Pour en parler, on rejoint tout de suite Guillaume Lavoine, chroniqueur de politique américaine, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Est-ce que je me trompe ou dans les 4 années de M. Trump, on n'a quand même pas beaucoup parlé de Camp David comme dans certaines autres présidences?
Non, c'est vrai. C'était pas le Trump. Beaucoup de présidents avaient des résidences secondaires. Kennedy, c'était Hannesport. Truman, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aller en Floride, comme Trump d'ailleurs, qui avait son domaine dans Mar-a-Lago. Alors, mais tous les présidents sont allés. Il y en a beaucoup, un peu, passionnément. Trump, on va le mettre dans le camp de ceux qui ne sont pas allés tant que ça à Camp David.
Donc, parle-nous de l'endroit. Pourquoi ça existe et pourquoi les présidents s'y retrouvent?
Bien, d'abord, il y a un côté... À un moment donné, la Maison-Blanche, c'est bien joli, mais ça devient un peu lourd, puis comme tout le monde, puis on est en relâche, c'est un peu ça. La volonté de sortir de la maison ou juste pour aller là, changer d'air, ou sinon pour travailler, mais dans un cadre un peu plus relax, ben les présidents, c'est un peu pareil, tellement que le président Truman disait « Le bureau ovale, c'est le joyau du système carcéral américain. » Alors, on veut sortir de là.
C'est une belle prison.
Oui, et alors tous les présidents essayaient de sortir, mais là, pour Camp David, il faut remonter à Franklin Delano Roosevelt. Alors Roosevelt, lui, élu en 1932, un gars de la marine, adore l'idée d'aller sur... À l'époque, les présidents... Il y a un hélicoptère, il y a une limousine. À l'époque, il y avait un yacht qui était pas tellement loin de la Maison-Blanche. Alors, c'était le USS Potomac. Il adorait ça. Mais en 1941... les États-Unis entrent en guerre. Et là, les services secrets, l'idée d'avoir le président sur un bateau facilement atteignable, ouais. Là, le service secret dit « Non, ça marche plus, c'est trop dangereux. » Alors là, trouvons-nous un autre endroit pour aller décompresser. Et là, ils ont 3 critères. Il faudrait qu'il fasse un peu plus frais, parce que ceux qui sont allés à Washington l'été le savent, là, c'est extraordinairement lourd. Là, la température, c'est écrasant, tellement qu'avant l'invention de l'air climatisé. Si vous étiez un diplomate étranger qu'on vous envoyait à Washington, vous aviez une surprime sur votre salaire, tellement c'était dur. Vous avez eu l'été là-bas. Alors, notre Roosevelt fait un peu d'asthme. Alors, il veut un endroit où il fait un peu plus frais. Il faudrait que ce soit pas trop loin et pas trop cher. Et là, c'est là qu'on va aller se diriger du côté du Maryland, le massif des Montagnes Bleues. 500 mètres d'altitude, donc c'est toujours un peu plus frais qu'à la base. 2h30 de voiture, mais 1 demi-heure en hélicoptère à partir de la cour arrière de la Maison-Blanche. Et au miracle, il y avait déjà un petit camp qui était là, propriété des États-Unis, entre autres parce que c'était un coin où le prédécesseur de Roosevelt, avec son propre argent, Herbert Hoover, s'était acheté un petit 160 quelques acres pour aller à la pêche. Ah. Et il aimait ça, il avait fait aménager un peu, il avait payé ça de ses poches parce que Hoover était très, très riche. Et lorsqu'il a quitté, il l'a fait don de ce domaine-là au gouvernement américain, aux services nationaux, au service des parcs nationaux. Alors, c'est un peu ça qui est notre base pour Camp David. Et quand Roosevelt arrivera là la première fois, ça s'appelle pas Camp David. Il appelle ça Shangri-La. Parce qu'à l'époque, il y a un roman très populaire qui parle d'un paradis perdu dans l'Himalaya. Et alors, Roosevelt prend ce référence-là en disant, bon, ben ça va être mon Shangri-La à moi. Ça va s'appeler Camp David après, à cause de Dwight Eisenhower, qui est un bon grand-père qui veut faire plaisir à son petit-fils, qui s'appelle David. Et il va renommer le camp présidentiel, la retraite présidentielle, Camp David, puis c'est ce nom-là qui colle depuis ce temps-là.
Mais là, on est arrivé au départ, c'est un petit chalet ou une cabine, et on a dû quand même agrandir ça au fil des années. Est-ce qu'on y a, et là on se retrouve, tu parlais de 1941, on est en pleine guerre, est-ce qu'on a installé un bunker, donc dans le but de se préparer à quelque chose de plus grave?
Alors, il y a un petit bunker maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, là, c'est un camp de chasse pour avoir la paix. C'est pas exactement branché sur Internet. Mais là, tous les présidents vont amener leur propre réno. C'est un peu comme un chalet qu'on a dans la famille depuis longtemps. Chaque génération ajoute quelque chose. Alors, Truman va vous dire, OK, mettez-moi ça en hiver, là, je veux voir que ça serve 12 mois par année. Après ça, c'est une piscine. Après ça, c'est un terrain de tennis, un terrain de golf intéressant là-bas. Et des pistes de ski de fond, de vélo de montagne, entre autres, développées pour W. Bush, qui voulait complètement décompresser. D'ailleurs, W. Bush disait, le service secret, vous allez me suivre en arrière avec mes vélos de montagne. Et c'était le seul moment dans sa semaine où il voyait personne en avant de lui. Là. Alors, c'est vraiment un endroit où les présidents et leurs familles peuvent se retrouver seuls. C'est une ambiance très, très, très intimiste, Camp David. Et là, les présidents vont faire de la natation. Clinton adorait jouer au golf. Il y en a d'autres que, par exemple, George Bush père, lui, c'était une grosse activité, le tir de fer à cheval. Reagan, c'était l'équitation. Alors, tout le monde fait un peu comme... Je m'en vais relaxer au chalet.
Ben, c'est ça. Il y a une partie détente, puis chacun il trouvait son compte, mais c'est devenu aussi, je suppose, un point, parce que si on le connaît si bien, c'est parce qu'il y a des dirigeants mondiaux qui s'y sont retrouvés aussi. Donc, au départ, c'était vraiment juste pour se reposer, mais finalement, c'est devenu un lieu de télétravail ou de travail à distance?
Un lieu de travail, mais on fait tout ça des fois, vouloir changer d'air, travailler, soit pour aller lire, se reposer, travailler, mais dans une ambiance plus relaxe, plus décontractée. Alors, souvent, les présidents vont inviter là, soit leurs collaborateurs les plus proches pour des réunions, un genre de lac à l'épaule, ce que nous on appellerait. Sinon, inviter des leaders étrangers. Churchill était le premier qui a été invité là, les premiers ministres britanniques y vont souvent. Il y a déjà, même Obama, qui a voulu dire, OK, moi je vais aller là, puis je vais inviter là, mon homologue russe. Par exemple, Mulroney était allé, puis là, c'est quelque chose de particulier, parce qu'être invité à Camp David, il faut que ce soit un peu spécial, c'est comme qui j'invite à mon chalet. Et George Bush père, lors de sa dernière fin de semaine en janvier, juste avant de cesser d'être président, avait invité pour toute la fin de semaine Brian Mulroney, sa famille, et c'était vraiment une espèce de démonstration ultime de la grande amitié qui unissait les deux hommes.
Oui, effectivement, parce qu'il est décédé il y a quelques années. Je me souviens que M. Mulroney s'était ressorti à quel point ils étaient des amis après justement la présidence de George Bush père. Donc, il y a eu des moments. Là, on parle d'alliés naturels avec le premier ministre canadien, mais également des Russes qui se sont retrouvés.
Oui, des moments même de très haute diplomatie. Par exemple, en 2012, Obama avait dit, tiens, j'ai pas de place pour faire le G8, on va faire ça à Camp David et revenir à l'esprit intimiste de ce que c'était au départ, parce que là, tu peux pas avoir un entourage gigantissime.
Là, chacun s'en va dans sa chambre, toi, t'es dans le sous-sol, toi, t'es en haut.
Ben, il y a une série de chalets, là, c'est rendu un peu un domaine, mais oui, c'est à peu près ça. Et par exemple, en 59, Eisenhower, en pleine guerre froide, avait quand même décidé d'inviter le leader russe Khrushchev. Puis en 78, c'est probablement ça qui va faire du nom Camp David le nom le plus célèbre, Carter, qui décide de vouloir essayer de régler le problème du Moyen-Orient, une job à vie, invite le président égyptien, Sadat, et le premier ministre israélien Begin, qui sont en guerre. Il les invite à Camp David et il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Et finalement, il va les garder pendant 12 jours. Là, chacun ont leur chalet. Et comme ils peuvent même pas se voir en peinture, Carter négocie avec un, négocie avec l'autre. Et à la fin, il va sortir de là avec un accord de paix entre les deux. Et ça va s'appeler les accords de Camp David. C'est probablement le summum, je dirais, le plus grand succès de la présidence de Jimmy Carter. Et ça s'appelle encore aujourd'hui les accords de Camp David. Mais évidemment, un chalet présidentiel, une retraite présidentielle depuis les années 40, ça vient avec une flopée d'anecdotes. La plus comique, c'est 1973, écoutez bien ça, Nixon décide d'inviter Brezhnev, qui à l'époque est le leader soviétique, Et bon, pour être gentil, il lui offre une voiture, une Lincoln Continental de l'année, rutilante. Alors là, Brezhnev avait tout content. Il s'assoit au volant, puis il dit à Nixon, embarque, embarque. Et là, plus vite que les services secrets sont capables de se rendre compte, Brezhnev tourne la clé et il part avec la voiture, avec Nixon assis à l'intérieur. Et là, il se met à conduire comme s'il était un pilote de Formule 1 dans les chemins sur Camp David. Puis là, ça s'est aménagé pour des voitures de vol.
Okay.
Il roule à 80 quelques kilomètres heure. Nixon et tout le monde, Nixon a la peur de sa vie. Et là, à la fin, il finit par débarquer. Puis là, Nixon se dit, ouais, finalement, le plus grand danger pour les Russes, c'est pas le cas nucléaire, c'est...
c'est la conduite.
Et là, c'est la dernière fois qu'un président américain va offrir une voiture à un leader russe. Mais c'est vraiment ce qu'on voit là. Mais tous les présidents vont tomber en amour avec Camp David. Plusieurs avaient des résidences secondaires. Par exemple, W. Bush, qui adorait quand même Camp David, allait beaucoup à son ranch au Texas. Lyndon B. Johnson aussi. Mais tous ont fini par dire à peu près la chose suivante. Si j'avais pas eu Camp David, je pense que j'aurais pas été capable de passer à travers ce que c'est d'être président. Même Reagan disait, moi, là, les longues journées, là, ah, mais le vendredi, quand il était 3h15, j'en profitais pour me sauver à Camp David. Alors, tu dis à l'hélicoptère, prépare-toi, à 3h, j'embarque là-dedans, je m'en vais une fin de semaine à Camp David. Puis Biden fait ça.
Il est déjà allé, Joe Biden?
Imaginez, élu le 20 janvier, le 12 février, il était rendu à Camp David. Alors, après déjà juste 2 semaines et quelques, ils ont dit, OK, là, je m'en vais décompresser à Camp David. Alors, vous voyez comment un chalet... Des fois, ça permet d'être meilleur président.
Et j'imagine quand même pour parce que pour Biden, il était allé, mais c'était le chalet de Barack. Là, c'est son, c'est mon chalet maintenant. Alors,
oui,
faire le tour du propriétaire.
Le chalet Aspen, qui est celui du président. Et pour l'anecdote, le chalet Aspen a servi une fois à un vice-président. Souvenez après le 11 septembre, quand on disait Dick Cheney est dans une localisation dont on gardait secrète parce qu'on voulait pas avoir le président et le vice-président dans le même endroit ou en cas d'attaque, eh bien, là, aujourd'hui, on a su que c'est là qu'était Dick Cheney pendant qu'il était supposément là, caché à la suite des attaques du 11 septembre. Et parce que c'est celui qui est le mieux branché, on l'avait installé dans la cabine ou le chalet présidentiel.
Mais fascinant d'entendre l'histoire de Camp David. Effectivement, on risque d'en voir, d'en entendre un peu plus parler parce que Joe Biden, il sera visiblement plus souvent que Donald Trump, qui avait son Mar-a-Lago et c'était son endroit préféré, clairement.
Là-dessus, vous allez voir, parce que justement, Joe Biden, bon, il est pas mal moins pauvre qu'il a déjà été, mais lui, il n'y a pas de domaine à travers les États-Unis. Alors, on peut imaginer qu'il va se retrouver là pas mal plus souvent.
Oui, il pourra s'en acheter après, je pense, sans trop de problèmes. L'argent rentre. Guillaume Lavoie, un gros merci.
Au plaisir.
Bonne journée. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand et notre chroniqueur de politique américaine.